Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans ce troisième épisode de Pulsion Sportive, une série de podcasts pour vous faire découvrir nos pépites sportives à Val-de-Reuil, et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule. En voiture, en jogging ou confortablement dans votre canapé, tendez les oreilles et profitez de ce long moment d'échange avec Joris Jagut, athlète au Val-de-Reuil Olympique Lutte. Vous ne le connaissez pas ? Je vous le présente. Alors bonjour Joris.
Bonjour.
Est-ce que dans un premier temps vous pouvez vous présenter ?
Joris Jagut, donc lutteur du club du Val-de-Reuil Olympique Lutte, éducateur de profession. Donc je travaille sur une structure en Seine-Maritime et je suis aussi en plus d'être un athlète, je fais partie des entraîneurs du club. Puisqu'en fait, initialement, je suis entré dans ce club en tant qu'apprenti BPJEPS, éducateur sportif. Donc, après, en fait, progressivement, au fur et à mesure que j'ai évolué en fait, dans cette voie-là, j'ai découvert en fait, le milieu du handicap. Et c'est un milieu qui m'a beaucoup plu. Donc, en fait, à l'issue de ma formation, j'ai pris le choix en fait, de poursuivre dans cette voie-là en tant que, et devenir éducateur. Et du coup, en parallèle, en fait, je faisais à la fois un petit peu d'animation pour le club et d'entraînement. Et puis, je faisais en parallèle de mon métier.
Ok. Et du coup, là, je rebondis, vous parlez de BPJEPS. Le sport, c'est quelque chose qui a été inculqué pour vous depuis tout petit.
Oui. J'ai vraiment commencé très tôt le sport. Bon, j'avais commencé par du judo, puis ensuite du rugby. Puis après, pendant très longtemps, du kung-fu, d'ailleurs, le club de kung-fu de Val-de-Reuil.
D'accord.
Je dirais même que dans mon éducation et dans la personne que je suis aujourd'hui est en grande partie due au sport et toutes les figures qui ont gravité autour, donc tous les entraîneurs, tous les bénévoles qui m'ont suivi, qui m'ont encadré, qui ont un petit peu quelque part façonné ma personne.
D'accord. Et vos titres justement de kung-fu, enfin de champion et vice-champion 2018-2019, c'était avec le club là de Val-de-Reuil justement.
Oui, c'est ça, exactement.
D'accord.
Oui. J'ai commencé la lutte en 2020. J'ai en 2021, j'avais fait mon premier titre de champion de France lutte adaptée. Et puis ensuite, je me suis lancé dans les compétitions olympiques, donc en fait les compétitions ordinaires. Donc là, encadré par la Fédération française de lutte et disciplines associées, puisqu'en fait la lutte adaptée est elle déléguée à la Fédération française du sport adapté. Et là-dessus, sur ce parcours-là, j'ai quelques médailles. J'ai fait vice-champion de Normandie l'année dernière. Là, cette année, j'ai fait troisième. Lors d'une compétition à Cannes-Récoire, j'ai fait aussi troisième. Et là, depuis 2021, en fait, tous les ans, je fais aussi le tournoi international de Sotteville.
D'accord. Voilà, ok.
Je représente le club dans cette compétition-là. Mais avant la lutte, j'ai aussi un parcours sportif parce que j'ai touché à plusieurs disciplines, notamment durant mes études. Alors, j'avais fait aussi de la boxe chinoise, donc c'était affilié au kung-fu. Alors, lorsque je suis parti à Rouen, en fait, j'ai fait mes études et en parallèle, en fait, je revenais quand même au club du Val-de-Reuil, mais j'allais aussi sur un autre club qui, là, en plus de faire du kung-fu et de la boxe chinoise, touche aussi plusieurs disciplines. Et c'est d'ailleurs, en fait, via ce club-là que je suis rentré dans le réseau de la Fédération française de lutte, puisqu'elle pratiquait aussi le sambo, qui est un mix de judo et de lutte. Oui. Et c'est une pratique originaire de l'Union soviétique. Et donc elle est affiliée à la Fédération française de lutte et c'était dans ce cadre-là que j'avais rencontré en fait le conseil technique régional qui m'a mis en fait en relation avec le club de Val-de-Reuil, alors que je connaissais de loin en fait, parce que durant ses débuts j'étais encore affilié au club de kung-fu de Val-de-Reuil. C'était sympa, mais j'étais déjà dans une activité et puis c'était en fait durant le besoin de cette besoin de trouver une alternance pour ce BPJEPS, parce que j'ai été mis en relation avec le club. De là, tout a commencé, on va dire, pour la lutte. J'avais donc, pour revenir sur la question des compétitions, j'avais fait vice-champion de France en Sandalight, donc c'était du semi-contact. J'avais fait aussi des compétitions de Taekwondo. J'ai fait une fois vice-champion de Normandie. Mais bon, après, en fait, avec le temps, en fait, quand j'étais étudiant, j'avais, on va dire, suffisamment de temps pour me consacrer à toutes ces disciplines en même temps. Mais bon, la réalité de la vie, c'est qu'à un moment donné, on doit se centrer. Mon choix s'est porté naturellement sur la lutte.
D'accord. Et justement, vu que c'est un sport instinctivement où lesquels ne se penchent pas forcément dessus, on pense plus aux sports notamment collectifs, rugby, football, basket. Est-ce qu'il y a eu des difficultés principales que vous avez pu rencontrer quand vous avez commencé ce sport ?
Alors, la difficulté par rapport à l'acquisition ou au développement dans le sport ?
Ouais, que ça soit même sur le plan personnel ou même sportif, par exemple.
Alors, moi, j'ai toujours éprouvé du plaisir à faire des sports de combat. Donc, l'apprentissage, en fait, en soi, c'est... Je n'ai jamais vraiment éprouvé de difficultés, puisqu'en fait, je connais un petit peu la manière dont on évolue dans ces sports-là. En fait, c'est toujours un peu difficile. Lorsqu'on sort dans une nouvelle discipline, on débute, on tâtonne, et on n'est jamais trop sûr de ses mouvements. Donc, il y a forcément des... Comme dans tous les sports, en fait, un début où on tâtonne, puis on est face à des gens qui ont de l'expérience, donc forcément, comme dans tous les sports de combat, on arrive et quand on s'entraîne avec les partenaires, on ressent bien la différence de niveau, mais c'est quelque chose qui, avec du temps, de la rigueur et de la constance, en fait, on s'entraîne, on s'exerce, on continue, on persévère. Et par cette persévérance, on parvient en fait à tout simplement gommer cet écart de niveau. Et particulièrement en lutte. Parce qu'en plus de ça, en fait, ce qui se passe dans cette discipline-là, c'est que c'est une discipline qui est très exigeante sur tous les plans, aussi bien sur le plan physique que sur le plan technique. Ce qui est très complet. Il est très complet puisqu'il faut de la force, de la vitesse, de la souplesse, de l'endurance. Mais il faut aussi de la technique, donc aussi une certaine force mentale et de la lucidité dans l'effort. Donc effectivement, c'est un sport qui demande beaucoup de ressources et on a souvent en face de nous des lutteurs qui ont commencé ça depuis qu'ils ont 3 ans. Donc quand on arrive avec des notions de sport de préhension et d'autres sports, bon. On peut toujours essayer 2-3 choses, mais on redevient un petit peu un nouveau. Donc pour moi ça paraît quand même, c'est normal, de toute façon puisque les choses sont ainsi faites, et ça enseigne aussi un petit peu l'humilité. C'est une bonne chose pour moi, selon moi.
D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des aspects de la lutte, que ce soit via les valeurs de ce sport, qui vous aident à mieux gérer votre quotidien, vous sentir mieux? Est-ce que vous appliquez ce sport à votre vie quotidienne, par exemple?
Ah oui, parce qu'alors il y a des petites compétences qu'on apprend. Alors surtout lorsqu'on pratique le wrestling training, qui est une des pratiques qui a été récemment, c'était depuis quelques années déjà, quand je suis arrivé, ça avait commencé. C'était le wrestling training, une forme d'entraînement physique avec la préparation. En gros, pour résumer, c'est une séance qui est basée sur du renforcement musculaire avec des outils tels que le kettlebell. On effectue tout simplement une série de mouvements qui consiste à faire de l'entraînement fonctionnel. Un entraînement fonctionnel, j'entends par là, travail d'un mouvement qui en fait rejoint des mouvements en lutte. Mais c'est aussi des mouvements qu'on voit aussi au quotidien. Effectivement, par exemple, lorsqu'on porte une charge, effectivement, souvent, quand on n'a pas de notion de souffler des charges, en fait, on coordonne pas ses mouvements. On ne porte pas forcément comme il faudrait. Et ce qui est intéressant, c'est que si initialement ce cycle d'entraînement était destiné aux compétiteurs, on a remarqué que c'est quelque chose qui peut aussi peut aussi aider dans son dans son quotidien. Et donc c'est pour ça que c'est rentré un peu dans le cadre des pratiques sport santé. Et finalement, ça a été un outil qui a davantage attiré le public sport santé, donc souvent les mamans et papas de lutteurs qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans la discipline, mais qui ont quand même envie d'avoir une pratique sportive. Et donc en fait, ça a été finalement une offre aussi pour ces parents-là. Et donc, il y a aussi d'autres personnes qui souhaitent simplement s'entretenir donc via ce sport-là. Et donc c'est quelque chose qui s'utilise au quotidien, effectivement.
Et justement, par rapport à votre quotidien, je vais faire une petite transition là-dessus pour la deuxième partie. Vous êtes atteint d'un handicap. Alors, oui. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, quel est-il ?
Alors, je suis diagnostiqué TSA, donc trouble du spectre autistique. Alors, qu'est-ce que ce handicap ? Donc, ça fait partie en fait d'un handicap cognitif. Forcément, c'est quelque chose d'assez vaste. C'est un sujet assez vaste que l'autisme, parce que autrefois, on parlait de on avait des classifications, on avait des Asperger, on avait d'autres classements. Et là, maintenant, on parle plus de spectre. Parce qu'en fait, finalement, c'est un trouble, en fait, dans nos capacités, on a des lacunes dans certains domaines. Mais finalement, c'est assez varié. D'un profil à l'autre, en fait, on a plusieurs. Enfin, on peut avoir des difficultés, mais aussi avoir des forces. Mm-hmm. Donc, c'est juste qu'en fait, on est ce qu'on appelle neuroatypique. C'est-à-dire qu'en fait, on sort un peu de la norme dans notre fonctionnement.
D'accord.
Et donc, moi, ça avait été repéré très tôt, mais ça avait été diagnostiqué tard. Et d'ailleurs, ça avait été diagnostiqué dans le cadre de ma formation BPJEPS, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, un handicap était reconnu durant ma scolarité. Très jeune, en fait, d'ailleurs, j'avais un deuxième DPH, mais on n'avait pas de diagnostic. On savait que j'avais des difficultés. Et ma mère savait que c'était de l'autisme, parce qu'elle avait du réseau dans ce milieu. Et donc, à l'âge de 2 ans, elle m'avait fait examiner par des spécialistes. Mais eux, on s'en arrivait à l'hypothèse, parce qu'en fait, il n'y avait pas de diagnostic officiel qui avait été posé. Eux, on en déduit qu'il y aurait de l'autisme. Et donc, là-dessus, elle s'est battue auprès des écoles, auprès de la MDPH, pour que son handicap soit reconnu. Alors, elle a réussi à faire reconnaître quand même le handicap et les difficultés. Toutefois, en fait, il n'y avait pas eu de diagnostic durant ma jeunesse. Au final, sans doute, n'était-ce pas nécessaire, puisque de toute manière, on reconnaissait tout de même les difficultés, j'ai pu bénéficier d'aménagement. Puis, ensuite, arrivée la période post-bac, j'avais fait ce choix, puisqu'en fait, j'avais fait tout un travail, puisque j'avais quand même bénéficié d'un suivi des professionnels qui m'ont vraiment beaucoup aidé. J'avais estimé qu'il n'était plus nécessaire de bénéficier de l'aménagement. Bon, j'ai quand même pu faire mes études supérieures. Je suis arrivé jusqu'à la licence. Donc, j'avais fait un DUT carrière juridique, puis une licence d'administration publique, donc dans l'université de Rouen. Puis, arrivé dans le monde du travail, j'avais tenté d'avancer, on va dire, en sous-marin. Au final, j'arrivais quand même à faire quelques missions, mais finalement, ce n'était pas. J'étais un petit peu dans une forme de précarité. Et finalement, lorsque je me suis lancé dans la formation BPJEPS, je me suis un petit peu retrouvé dos au mur du fait d'un test préalable d'entrée en formation qui en fait consistait à un test d'endurance physique, donc le test de Clégé. Donc ça là-dessus, normalement, mon handicap n'avait pas d'importance. Mais là, la partie qui m'a causé énormément de difficultés, c'était le parcours de motricité. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir dans l'autisme, c'est que si sur le plan, on le remarque sur le plan social, mais il y a aussi ce qu'on appelle des comorbidités. Des comorbidités dans le sens où lorsqu'une personne a un trouble du spectre autistique, il est aussi sujet à d'autres troubles, notamment des troubles 10. Et dans mon cas, je suis dysgraphique, c'est un trouble de motricité fine qui se traduit par des difficultés à coordonner des mouvements pour des, pour ce qu'on appelle la motocyclette, par exemple couper un fromage droit. Ça, c'est quelque chose qui en soi en fait est possible, mais me demande en fait un certain effort. Je vous montrerai mes cahiers et on me dit très souvent, tu as une écriture de médecin. Mais je suis pas médecin. C'est-à-dire que je n'ai ni la connaissance du médecin, mais par contre j'ai son écriture. Ce parcours-là, en fait, il y avait tout un tas d'épreuves. En fait, c'est un grand parcours où on a plusieurs étapes, et je butais sur plusieurs de ces étapes-là, ce qui bloquait en fait mon entrée en formation, parce que tant que je n'avais pas réussi cette épreuve, je ne pouvais pas entrer en formation. Et au bout de la quatrième tentative, il a fallu que je me rende à l'évidence qu'il fallait simplement admettre que j'avais ces difficultés et que je devais les faire savoir.
D'accord.
Et, il a fallu que je sollicite un petit peu mes ressources et que j'exploite mon réseau pour essayer de revenir un petit peu auprès de la MDPH et aussi auprès des psychologues et des médecins pour que je puisse bénéficier d'aménagement. Ce qui a été un moment un peu difficile pour moi, parce que quand on est porteur de handicap, ça, surtout en handicap de ce genre-là, en fait, ça touche un peu à notre fierté. On se dit, on aimerait finalement que notre vie se passe comme les autres. Être entre guillemets normal, enfin, dans la normalité. Même si c'est une notion assez relative au final, mais toujours est-il qu'on... En tout cas, pour ma part, j'en sentais énormément de frustration d'avoir fait face à ces difficultés. Et en fait, au final, de devoir fournir plus d'efforts pour obtenir les mêmes résultats que ces personnes qui sont dites en fait neurotypiques, donc en fait, qui sont dans la normalité.
D'accord.
Voilà. Donc... voilà, il a fallu que je fasse reconnaître ces difficultés, il a fallu que je fasse ce diagnostic. Donc j'ai obtenu ce diagnostic en 2021.
Est-ce que justement vous avez trouvé des stratégies particulières pour vous adapter dans l'environnement de la lutte, que ce soit dans les compétitions, même pas spécialement?
Oh, dans le sport pas spécialement, j'ai toujours baigné dedans. Après oui, il y a forcément ces petites habitudes, mais en fait, chaque athlète a ces habitudes-là. Donc, au final, je me fonds facilement dans la masse. Dans la pratique sportive, il n'y a aucun souci, mais au quotidien, c'est effectivement, partout où je vais, en fait, je mets en place des stratégies pour finalement m'adapter à mon environnement.
Et justement, est-ce que la lutte est-elle un moyen, enfin, ou même les sports de combat que vous avez fait dans votre vie? C'est un peu une expression aussi personnelle de communiquer, de vous livrer aux autres, à la société. Outre, ça dépasse un peu le côté sportif pour vous.
Bah, c'est que le sport, pour moi, était créatrice de liens. C'est le plus gros de mes liens sont issus du sport. C'est moi, j'aime dire que si je suis là aujourd'hui, c'est en très grosse partie grâce au sport, parce que j'ai, comme je t'avais dit tout à l'heure, en fait, finalement, ce qui a façonné ma personnalité, c'est finalement tous ces entraîneurs, tous ces bénévoles qui m'ont accueilli, qui m'ont reçu, qui m'ont accompagné et qui m'ont aussi inspiré. Et beaucoup d'entre eux m'ont inspiré. Et j'avais en fait mis une telle énergie, un tel engouement dans ces activités que la question de m'engager auprès de ces associations ne se posait même pas. J'y allais avec à cœur joie. Et c'est finalement comme ça, par ce bénévolat au départ, que je me suis progressivement orienté vers mon métier actuel d'éducateur.
D'accord. Et justement, dans la lutte, vous êtes seul. Est-ce que vous avez un coach, des partenaires?
Oui, alors on a l'une des forces valeureuses, c'est qu'elle a un gros effectif bénévole. On a beaucoup d'entraînés. On a même maintenant un coach professionnel, un salarié du club.
D'accord.
qui était aussi alternant BPJEPS dans ce club-là, qui avait en fait suivi, qui m'a suivi l'année d'après. Et donc on avait pendant un temps, on avait évolué ensemble en tant qu'apprenti.
tous les deux.
Et puis, après mon diplôme, j'ai fait ma voie, puis lui, il a continué. Et au final, on lui a proposé, en fait, finalement, de devenir coach pour le club à temps plein. Et donc, effectivement, lui s'occupe d'entraînement au quotidien. Puis, on a aussi d'autres coachs qui interviennent un peu plus ponctuellement. Et puis aussi, beaucoup de bénévoles qui viennent un petit peu épauler ce coach, parce que l'une des difficultés en tant que coach, c'est lorsque vous avez en fait un niveau hétérogène dans votre groupe. Et c'est là où en fait, ces bénévoles sont essentiels, je dirais, pour l'encadrement du groupe, puisqu'ils vont permettre en fait d'ajuster les niveaux. Ils vont permettre aussi de réadapter un peu la séance en parallèle, et en fait créer un petit peu des petits groupes qui vont permettre en fait que tout le monde avance au même rythme. Et en fait pendant un temps, parce que là maintenant c'était un peu plus compliqué depuis que je me suis engagé dans les métiers de la protection de l'enfance, parce que je suis éducateur. Alors j'avais initialement commencé dans le milieu du handicap, et dans ce milieu-là en fait, là où je travaillais, j'étais sur des horaires de journée, donc je pouvais travailler la journée et le soir venir au club chaque séance, j'étais systématiquement. Là maintenant, je suis dans la protection de l'enfance, je suis en service d'accueil d'urgence, et puis avant en maison d'enfants à caractère social, en MEX. Donc là, en fait, on est en horaire d'internat, ce qui fait qu'on a des horaires du soir. Donc bon, là, à ce moment-là, en fait, j'ai perdu en disponibilité pour le club, mais j'arrivais quand même à venir.
Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent là dans le futur pour vous, déjà fixées? Comment vous voyez dans ce sport?
Bon, je ne pense pas changer de cap. J'ai bien l'intention de rester dans ce sport. Je suis tombé amoureux de cette discipline en 2020 et ça fait déjà bientôt 5 ans que je pratique cette discipline et cet amour ne s'est pas terni. Donc je me suis engagé et je m'engage encore. Et là, aujourd'hui, je fais partie du bureau du club.
Okay.
Je m'engage toujours lorsque je suis disponible pour aider les coachs à, et puis moi aussi encadrer moi-même les clubs. Il m'arrive d'animer des séances parce que lorsque le club s'engage dans les compétitions, on mobilise tout le monde et il faut quand même maintenir les séances en club. Donc c'est là que j'interviens avec plaisir d'ailleurs. Je reprends un petit peu mon ancien métier d'éducateur sportif dans ces moments-là et je me suis aussi engagé en tant que bénévole, car je suis depuis peu président du comité départemental de lutte de l'Eure, donc affilié à la Fédération française de lutte. Et j'envisage, moi, de porter des projets donc avec le président du club de lutte, qui est aussi trésorier du comité. Et on commence un petit peu à concevoir des projets pour le développement de la discipline, que ce soit la création d'antennes qui ont vocation à devenir ensuite des clubs, parce que c'était le projet initial de l'ancien bureau. Donc c'était à l'époque Nathalie Hayon qui est avec l'aide de Sarafi qui sont les fondateurs de ce club-là. Ils avaient pour projet de développer la discipline, les disciplines de la fédération dans l'Eure. Et il faut savoir que Val d'Oreuil est le premier club affilié à la FFLDA de l'Eure. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. Donc, ils sont arrivés en 2016 et ils ont ce projet. Ils avaient ce projet-là que nous poursuit et de développer des antennes dans l'Eure pour en faire des clubs, pour en fait que la discipline se développe dans le département. Et lorsque j'avais été recruté en tant que BPJEPS, j'avais été recruté dans cette optique-là, de créer des antennes et de les faire évoluer. Nous, on continue ce projet avec Samy Wannes, le président du club, pour continuer cette quête. Donc là, on maintient ce projet. Et puis moi, de mon côté, je suis aussi porteur d'un autre projet, on va dire de mon côté, qui part en fait d'une conviction qui est venue... justement à l'issue de mon entrée dans le milieu du médico-social, puisqu'en fait il part d'un constat, c'est cette alors c'est que le diplôme d'éducateur sportif, finalement, dans le milieu du médico-social, n'est pas reconnu, mais en revanche, ses compétences sont appréciées. C'est entre guillemets, c'était un fait qui m'avait valu de louper une opportunité, même si au final la structure qui m'emploie était quand même ravie de m'avoir dans ses services, elle ne pouvait pas m'accorder l'accès à certains postes, puisqu'en fait je manquais de diplôme reconnu du médico-social. Et pourtant, je dirais que dans le milieu du social, le sport, selon moi, a un véritable rôle. Il est porteur de valeurs, il est porteur de cohésion, et il est un outil formidable pour l'insertion des personnes dans la société. Et l'inclusion. Le sport est vraiment un très bon outil pour l'inclusion. Puisque, par exemple, nous, dans la pratique du sport adapté, on le pratique en inclusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? On a fait ce choix plutôt de créer une section à part lutte adaptée, on a pris le pari plutôt d'insérer les jeunes qui relèvent de la lutte adaptée dans les séances avec les autres. Et ce pari a été gagné haut la main, puisque finalement on a réussi finalement à intégrer ces jeunes-là. Donc on a une jeune trisomique qui est dans notre section qui lutte avec les autres, et tout, les choses se passent très bien, elle évolue. On avait aussi jadis un jeune autiste qui lui en revanche nécessitait quand même la mise en place d'un appui, et c'est là que je suis intervenu, puisque il fallait quand même que l'on se mette à côté de lui pour l'accompagner, mais ça se faisait parfaitement. Et donc, je dirais, le sport a un rôle dans le milieu social. Et donc, moi, quelle est ma volonté? C'est tout simplement de faire porter la voix du sport dans le milieu du social, et accorder aux éducateurs sportifs la possibilité d'évoluer aussi bien dans le sport que dans le milieu social. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai remarqué que dans le milieu où je travaille, il y a finalement énormément de personnes qui sont issues à minima de l'animation, et pour beaucoup dans le milieu du sport. Beaucoup d'anciens entraîneurs de foot, beaucoup d'entraîneurs de foot actuellement, ou par exemple même beaucoup de BPJEPS, éducateurs sportifs, qui travaillent dans le milieu du social, qui, comme moi d'ailleurs, sont reconnus, enfin sont appréciés pour leurs compétences, dont leurs diplômes ne sont pas reconnus. Et alors je comprends tout à fait en fait cet aspect, puisqu'il faut aussi reconnaître que le titre d'éducateur sportif comprend certaines compétences, mais sont plus une plus-value que justifiant les connaissances et les acquis nécessaires pour ce travail-là. Toutefois, ce que je souhaiterais mettre en place, c'est que ces éducateurs sportifs puissent accéder aussi au diplôme nécessaire pour travailler dans le social, et de faire valoir en même temps leurs compétences dans ce domaine-là. Donc là, je travaille pour essayer de mettre ça en place, en fait, de faire en sorte que des éducateurs sportifs en formation puissent aussi se former pour de sorte à pouvoir travailler aussi dans le social, le médico-social.
Donc on sent effectivement votre implication au-delà du plan sportif là-dedans, que Joris Jagus, sans le sport, ne serait pas le Joris que du coup on apprend à connaître. Et justement, avec ces jeunes, quel conseil vous pourriez donner à un ou une jeune athlète, effectivement, handicap, ou pas spécialement, qui voudrait se lancer dans la lutte?
Pour avancer, munissez-vous de votre force mentale. Soyez mentalement fort, persévérez, car tôt ou tard, en fait, ces efforts seront rémunérateurs. Donc, munissez-vous d'une force mentale pour réussir à faire face aux épreuves, et entourez-vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous et des gens qui vous écoutent. Donc saisissez ces mains qui vous sont portées pour vous accompagner. Ne rejetez pas vos particularités. Parce que moi, je suis passé par là. J'ai moi-même rejeté cette particularité que j'avais. Et pensant réussir, ça ne m'a apporté que de l'échec. Donc, admettez vos particularités. Reconnaissez-les en tant que telles. Faites-les reconnaître. Et surtout, n'ayez pas honte de de vous saisir des mains qui vous sont tendues pour vous accompagner. Si vous avez des difficultés, vous avez aussi des forces. Et plutôt que de cacher vos difficultés, munissez-vous de vos ressources pour vous faire reconnaître en tant que personne et admettre vos difficultés pour pouvoir prendre les mains qui vous sont tendues. N'ayez pas honte d'être accompagné, n'ayez pas honte de vous entourer de gens, parce que vous n'êtes pas seul dans vos difficultés. Il y a des mains qui vous sont tendues, prenez-les, car elles vous tireront vers le haut. Le but n'est pas de vous sentir diminué par cette aide, par cet accompagnement. Et elles sont émancipateurs, elles n'ont pas pour but de vous réduire, bien au contraire. Donc, munissez-vous des ressources qui vous sont proposées pour vous hisser. Et par cela, vous parviendrez à vous émanciper de votre condition.
Bah, merci en tout cas, Joris, pour ces belles paroles de fin. On espère que, comme nos deux précédents épisodes, ce podcast a pu donner des idées, des forces à nos auditeurs et auditrices. Et on espère vous revoir très bientôt sur nos plateformes. Et on vous souhaite le meilleur.
Merci à vous aussi.
En tout cas, Val de Reuil est un nid de pépites sportives et Joris nous le prouve encore. Ça y est, c'est terminé pour cet épisode de Pulsion Sportive, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour découvrir une nouvelle perle rolivaloise.